Radio Okapi.
La grande édition de nos informations dominicales vespérales, c'est avec Billy Yvan Lutumba.
Une semaine déjà que la campagne électorale pour le scrutin de décembre a débuté. En début de ce journal vespéral sur Radio Okapi, nous examinons comment celle-ci est menée sur terrain, du moins pour ce qui est des candidats à la présidentielle. De la sécurité à suivre aussi dans cette édition, c'est avec le point que nous faisons sur la situation au front dans la province du Nord Kivu ce dimanche dans le Masisi à Kiloliroé où les rebelles du M23 tentent toujours de progresser. Laurie Chenoubissi, invité en fin de ce journal, parle des solutions durables envisagées pour les déplacés de Bounia. Il est du ACR, ils sont plus de 650 déplacés, ces déplacés qui sont venus des quatre sites de Bounia. Tout de suite, nous entrons dans le vif des nouvelles qui font l'actualité du pays en ce dimanche 26 novembre. Fidèles auditeurs, bienvenue, excellente condition d'écoute à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Une semaine après le lancement de la campagne électorale, quatre catégories de candidats se dessinent au regard de la manière dont leur campagne évolue. Les deux premiers, Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi, ressortent du lot avec des moyens importants pour battre campagne et ont déjà parcouru plus de 5 provinces. La deuxième catégorie est celle de Fayulu, Mukwege, Sesanga, Mutamba et Anzuluni qui sont aussi en campagne à un rythme décéléré. Trois candidats dont Matata Kikuni et Diongo ont désisté en faveur de Katumbi alors que les 16 autres se font toujours attendre sur terrain.
Alors que Félix Antoine Tshisekedi a lancé sa campagne dimanche dernier au stade de Martyrs ici à Kinshasa, Moïse Katumbi, lui, a plutôt choisi la ville de Kisangani pour se lancer en campagne. Une semaine après, Katumbi a déjà parcouru 6 provinces de l'Est, de la Tshopo au Sud Kivu, en passant par le Haut et le Bas-Zuélé, l'Ituri et le Nord Kivu. Félix Tshisekedi est déjà passé par 5 provinces, dont Kinshasa, Congo Central, Maniema, Équateur et Sud-Ubangi. Moïse Katumbi centre son message sur la restauration de la paix, l'amélioration du social et la reconstruction nationale, alors que Félix Tshisekedi promet de consolider les efforts de développement déjà amorcés au cours de son premier mandat. D'autre part, Martin Fayulu, Denis Mukwege, Delice Sanga, Constant Mutamba et Anzuluni Bembe sont aussi déjà en campagne. Matata Mponyo, Seth Kikuni et Frank Diongo battent campagne pour Moïse Katumbi en faveur de qui ils ont désisté à leur candidature. Les 16 autres candidat président continue à se faire attendre sur le terrain de la campagne.
Le président de la République, Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession, pourra suspendre sa campagne électorale le 30 novembre 2023 afin de prendre part à la COP28 à Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Annonce faite par Tina Salama, sa porte-parole, au cours d'un point de presse organisé ce dimanche par l'envoyé spécial du chef de l'État pour la nouvelle économie du climat. À cette occasion, Stéphanie Mbombo parlait des engagements que prendra la RDC lors de ce sommet mondial sur le climat afin de favoriser son développement durable. On écoute Stéphanie Mbombo, l'envoyé spécial du chef de l'État pour la nouvelle économie du climat au micro de Grâce Hamzati.
Comme vous savez, le président de la République a cette vision de la nouvelle économie du climat qui est de faire de la lutte contre le changement climatique une opportunité d'affaires. En marge de la COP28, nous aurons plusieurs compagnies du Nord qui vont signer un engagement pour acheter des crédits carbone en RDC qu'on appelle un MOU pour protéger nos tourbières et valoriser nos tourbières en achetant des crédits carbone qui sera d'une valeur élevée. Également, pour cette COP, la RDC va signer un contrat sur l'enveloppe pays au sein de forum des leaders sur le forêt et le climat, qu'on appelle FCLP en cycle. Et là, nous allons signer une enveloppe pays qui sera consistante pour nous aider à valoriser la communauté autour de tourbières pour que la population tout autour ait une vie parallèle, alternative et n'ait pas entré dans le tourbière pour faire l'agriculture ou encore couper les arbres. Le président de la République a annoncé la création du fonds pour la nouvelle économie du climat. Ça sera un fonds qui sera fait avec la vision au niveau national, avec évidemment l'appui de partenaires, mais qui va contenir essentiellement un pourcentage sur les transactions de nos crédits carbone et ces fonds se serviront à des infrastructures durables et des monuments de climat qui va développer le pays de façon durable.
Dans la province de l'Équateur, l'ONG Action pour la protection et l'encadrement de l'enfant condamne l'utilisation des enfants dans la campagne électorale par les politiciens. Le secrétaire exécutif de cette association s'indigne que ces plusieurs enfants soit n'étudient plus, soit n'ont plus le temps de réviser leur matière car emportée dans l'ambiance de la campagne électorale. Il affirme que ces enfants sont notamment utilisés pour jouer au tam-tam, d'autres pour coller les affiches ou encore tenir les banderoles lors des caravanes motorisées. Martial Toté rappelle aux politiciens que ce ne sont pas les enfants qui vont les élire ou gonfler le nombre des partisans pour prétendre qu'ils sont populaires. On écoute Martial Toté au micro de Paul-Richard Malingela.
Depuis la semaine passée qu'on a lancé la campagne électorale, mais le constat est amer, c'est que la plupart des politiciens qui viennent, qui sont en Banaka, utilisent des enfants pendant leur campagne, pendant leurs meetings électoraux, ce qui est vraiment préjudiciable pour l'enfant. Nous ne cessons jamais de dire que la place de l'enfant, ce n'est pas dans les meetings. Par exemple, nous sommes à l'aéroport de Mbandaka et depuis le matin, nous sommes là en train d'observer, de faire le monitoring de ce qui se passe à l'aéroport, à travers la ville, mais on constate que la plupart, ce sont des enfants qui sont là. Les enfants sont venus partout, plus de 5 km. Vous prenez l'axe de Bamanya, vous êtes à 8 km. Vous prenez l'axe Sekri, c'est à 12-15 km. Et ils sont depuis le matin à l'aéroport. De Mbandaka, depuis le matin jusqu'à présent. Ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas bu de l'eau et des femmes qui sont là, peut-être certaines sont enceintes, mais ils sont à l'aéroport dépourvus. C'est préjudiciable d'abord pour la santé de l'enfant. Or, nous sommes pendant des cours, depuis le matin, certains enfants n'ont pas étudié, ils sont en uniforme à l'aéroport et dans la ville. C'est ce qui est vraiment condamnable pour nos politiciens. Ce ne sont pas les enfants qui vont les élire, ce sont la population adulte qui va les élire. Mais ce n'est pas d'utiliser les enfants.
Pendant ce temps, au Maniema, la tribune centrale de Kindu est momentanément fermée par les autorités provinciales. Celle-ci a souvent été utilisée pour les meetings politiques notamment. Le gouverneur intérimaire invite les candidats qui iront battre campagne à Kindu d'éviter cette place qui est en plein travaux de réhabilitation. D'après lui, un affaissement s'est signalé après le meeting du candidat président sortant. Les autres propositions des lieux où il faudra tenir leur meeting avec Fanny Idrissa Mangala dans cet extrait de sont choisis par Florence Kizalunga.
La tribune a connu un affaissement d'une très grande partie. C'est pourquoi je tiens à informer tous les candidats qui viendront battre campagne à Kindu. Ils trouveront la tribune centrale en pleine réhabilitation. Ce n'est pas à dire que c'est un motif d'empêchement des candidats de tenir leur meeting à cette place de la tribune, mais plutôt la manière dont cette tribune a connu, après l'arrivée du chef de l'État, pousse le maire de la ville à procéder à sa réhabilitation le plus tôt possible. Il m'a donné un délai de 2 semaines, mais pour ne pas bloquer les autres qui viendront battre campagne à Kindu, nous leur réservons le stade Joseph Kabila, le stade Kamakuta et à même place de la commune Mikelenge en face de l'Assemblée provinciale. C'est pourquoi nous disons à tout candidat qui veut tenir son meeting d'éviter cette place parce que cette place est en pleine réhabilitation.
Décès ce dimanche à Goma du secrétaire exécutif provincial de la CENI, Nord Kivu. Selon ses collègues de service, Justin Kiatsingé est décédé des suites de maladie. Le numéro 1 provincial de la CENI a intégré la CENI depuis 2005. Il a exercé plusieurs fonctions de responsabilité avant d'être nommé en 2023 secrétaire exécutif provincial de la CENI Nord Kivu. La cinquantaine révolue, Justin Kiatsingé laisse derrière lui une veuve et des orphelins. Nord Kivu à présent, des affrontements ont été signalés encore ce dimanche dans la matinée vers Kilolirwe. C'est sur l'axe Sake-Kichanga dans le territoire de Masisi. Des sources concordantes à Sake parlent de l'attaque des rebelles du M23 sur des positions des FRDC dans cette zone. Il paraît difficile de vérifier ce qui se passe sur le théâtre des opérations avec des sources officielles à Kilolirwe. La société civile de Sake signale un afflux des déplacés qui continue à arriver par dizaines de ménages. Faustin Kassolé plaide en faveur de ces personnes qui, certaines, passent la nuit à la Belle Étoile. Cependant, sur l'axe Kichanga-Mouesso, toujours dans le Massissi, une accalmie relative est signalée depuis environ 3 jours maintenant, affirment les sources à Mouesso. Notons enfin que le centre de Mouesso reste sous occupation des rebelles, selon la même source. La zone de libre-échange continentale africaine va permettre aux États membres de générer environ 200 milliards de dollars en 2045. C'est le résultat des recherches faites par des experts de l'Union africaine et publiées au cours de la conférence sur la gouvernance frontière qui s'est clôturée vendredi dernier à Addis Abeba en Éthiopie. Selon certains membres du panel, l'Afrique regorge d'énormes potentialités, notamment en RDC, qui a un grand rôle à jouer dans cette perspective. Isaac Remoyope.
Ce montant sera généré grâce au commerce transfrontalier qui passe essentiellement par la création des marchés uniques, affirment les organisateurs de cette conférence. Cela implique l'harmonisation des politiques, des réglementations, des normes liées à la migration, au commerce et à l'utilisation des terres arables dont 60% dans le monde se trouve en Afrique. Cela en vue de faciliter les transactions transfrontalières fluides et une gestion durable des ressources. Selon la Banque mondiale, le commerce en Afrique est encore très faible que dans d'autres continents et les exportations migrants africains représentent 6 à 17% par rapport à l'Asie qui est de 59%. Face à ces défis, il faut notamment améliorer les infrastructures de transport, routes, ports, aéroports, pour améliorer la connectivité transfrontalière. Selon certains experts, la RDC, qui est un vaste pays avec d'énormes ressources, a beaucoup à offrir au continent africain dans la mise en place de cette zone de libre-échange continentale africaine pour en tirer le maximum de profits. Mamadou Mbalo, un des experts à cette conférence.
La RDC a énormément de choses à offrir en termes de capacité de production agricole, d'investissement sur le plan énergétique, de construction d'infrastructures pour pouvoir désenclaver l'Afrique.
Les États membres sont invités à accélérer la mise en place de ces programmes à l'horizon 2063 qui coïncide avec les centenaires de l'Union africaine. Des retours d'Addis Abeba, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Programme de développement local de 145 territoires sous la gestion de la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles, CFEF. Tous les 26 sites confiés au constructeur Procom propriété commerciale Mwanda sont complètement achevés et prêts à être livrés au gouvernement. C'est ce qu'a affirmé Abigail Mbumba, ingénieure en charge de la logistique au sein de cette entreprise congolaise. Elle appelle par ailleurs le gouvernement à multiplier ses initiatives salutaires pour le peuple congolais. Abigail Mbumba le dit à Paul Matendo.
Commencer, travailler, arriver jusqu'à la fin comme ça, c'était pas vraiment facile, vu certaines réalités que nous avons rencontrées sur terrain. Quoique nous ne pouvions pas nous plaindre parce qu'on avait accepté que nous serions en mesure de réaliser les projets. Nous avons fait tout ce que nous avons pu faire et voilà, nous voici à la fin. C'était pas facile, il y avait beaucoup de contraintes. Déjà, dans la plupart des sites, il y avait déjà les réceptions techniques. Nous attendons maintenant à la CFF, comment vous allez organiser les choses avec le gouvernement pour procéder aux réceptions provisoires. Nous demanderons juste au gouvernement de multiplier ce genre de projet qui sera bénéfique pour tout le peuple congolais, surtout dans des milieux un peu reculés, dans des coins un peu reculés. Les écoles, les centres de santé, les forages, beaucoup, beaucoup de projets feront en sorte que tout le peuple congolais ait la joie de vivre dans son pays.
Le pont Louboudi au quartier Kanluka dans la commune de Ngaliema est ouvert au public. Son inauguration a été faite vendredi par le chef de l'État qu'accompagnait le gouverneur de la ville de Kinshasa. Cette œuvre, construite sur fonds propres de la ville, fait la joie des habitants. Il permet de relier le Kanluka à la commune de Selimbao. Babel Pongo Masimango était sur place, voici son reportage.
Ce pont long de 158 mètres avec 9 de largeur vient désenclaver le quartier Kanluka. Dans la commune de Ngaliema, il est relié à la commune de Selimbao via l'avenue Landou. Ce vendredi donc, c'est l'itinéraire que les deux personnalités ont emprunté sous les ovations de la population. Du Kanluka, ils sont allés jusqu'à Limbafoir en passant par le pont Louboudi d'abord, les avenues Landou, Chaba, Ngiringiri, Elengesa, Luanza dans la commune de Makala pour chuter sur Kikwit à l'entrée de la foire internationale de Kinshasa à Limba. Des ouvrages construits sur fonds propres de la ville. Ces routes nouvellement construites permettent de désengorger les avenues Bypass, Lumumba, Victoire et Kasavubu. Plusieurs routes secondaires sont en construction dans la ville de Kinshasa ou en train d'être inaugurées. C'est le cas récemment de l'avenue Nzolana et Marine à Ngaliema ou encore Roi Baudouin en plein chantier à Gombe, Kwango également à Kitambo. Mais beaucoup reste aussi à faire en matière de routes car plusieurs autres sont en état de délabrement avancé. C'est notamment le cas de l'avenue Kabambare.
Actualité internationale.
Les femmes rurales sénégalaises réclament la justice climatique. Samedi, dans les rues de Dakar, elles ont exprimé leur souffrance des effets du changement climatique. Lutter contre le changement climatique est très difficile et nécessite des ressources humaines, matérielles et financières dont les femmes ne disposent pas, explique Mouhamadou Lamine Seck, avocat spécialisé en environnement. En prélude au prochain sommet de la COP28 qui se tiendra à Dubaï, ces femmes et leur soutien ont tenu à rappeler les promesses non encore tenues. Des individus ont tenté de forcer une armurerie militaire dimanche matin dans la capitale sierra-léonaise Freetown et ont été repoussés, a indiqué dans un communiqué le gouvernement qui a annoncé un couvre-feu national immédiat. Des témoins ont rapporté à un correspondant de l'AFP entendre des coups de feu et des détonations dans le quartier de Wild Bell Force où l'armurerie aurait été attaquée. D'autres ont aussi fait état d'échanges des tirs près de la caserne de Moray Town où se trouve la marine et devant une autre implantation militaire dans la capitale.
L'invité
à Bounia.
Plus de 650 déplacés venus des quatre sites de Bougnon ont reçu une aide humanitaire en cash du ACR, le Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ce ravitaillement est le fruit d'une collaboration avec le gouvernement provincial. Nous recevons dans ce journal le chef de bureau par intérim du ACR qui nous parle des solutions durables envisagées par cette agence pour permettre à ces déplacés de reprendre une vie normale en dehors du site. Laurie Chenoubissi, au tout micro de Marine Mamagira.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, on retrouve ici le ACR avec des déplacés qui sont en train de recevoir de l'aide. On aimerait un peu comprendre en quoi consiste cette aide.
Ok, merci. Pour que vous compreniez mieux de quoi il est question, il faut peut-être que je vous situe dans la genèse même de cette activité-là. Il s'agit en fait des activités de solutions durables en faveur des personnes déplacées internes dans la province de Litouri. C'est un projet qui a été enclenché dans la province de Litouri par les autorités de la province. Et c'est un mouvement qui est soutenu par les agences du système des Nations Unies, les ONG qui interviennent dans le secteur de la paix aussi. C'est tout un projet qui vise la recherche et à la matérialisation des solutions durables en faveur de ces déplacés internes. Nous avons entamé un processus avec les déplacés qui sont actuellement installés sur les sites de Kigonze, sur les sites ISP. Nous avons également des déplacés qui viennent des sites de Mbala, Bembeï. Les solutions durables visent aussi à mettre fin au déplacement. Ce sont des personnes qui sont déplacées pour la plupart depuis les années 2019 et qui sont sur les sites depuis déjà un bon bout de temps. D'autres même depuis un peu plus longtemps que ça. Et il est question donc de travailler avec ces communautés, avec toutes les autres parties prenantes, à voir comment on peut progressivement sortir tous ces déplacés de la situation dans laquelle ils se trouvent dans les sites de déplacés pour justement s'autonomiser dans la perspective justement des solutions durables à leur faveur. Il faut dire que le HCR, comme certains autres acteurs aussi humanitaires, a reçu des fonds, quelques fonds, qui permettent aussi au HCR aujourd'hui d'envisager les constructions de logements pour ces personnes déplacées. Et comme vous pouvez le constater, ce sont des personnes qui viennent recevoir un petit appui qui va leur permettre d'engager les travaux de construction, donc voilà un peu. Oui.
On voit que c'est un petit nombre par rapport à l'effectif, on peut comprendre les motivations du choix de ce nombre-là.
En fait, il n'a pas été question d'avoir un choix qu'on pourrait qualifier de discriminatoire parce que nos actions se font de façon non discriminatoire. Avant d'arriver à ce stade du processus, il a été question aussi de réaliser une enquête d'intention au départ pour voir un peu sur les différents sites, quelle est la proportion de déplacés qui souhaitent par exemple le retour dans les localités de provenance, quelle est la proportion qui souhaite l'intégration locale et quelle est la proportion qui souhaite la relocalisation ailleurs que dans la ville de Bougna. Et c'est à l'issue de tout ce processus que nous avons pu collecter un certain nombre d'informations, de données qui nous ont permis d'arriver à la conclusion que 83% souhaitaient vraiment l'intégration sur place à Bougna et dans ses environs. Nous avons donc procédé par une certaine sélection. Pour pouvoir avancer dans le processus, il a été question à travers des critères qui ont été partagés pour aller vite avancer dans le processus, de voir parmi ces personnes qui ont déplacés, qui se trouvent sur les sites, quels sont ceux-là qui disposent par exemple d'une parcelle. Et ça nous permet aujourd'hui de commencer avec un premier nombre de ménages, premier ménage, qui vont être appuyés, qui vont être soutenus véritablement dans ce processus de construction des logements, de leur habitation, et qui, on espère, dans les prochaines semaines, les prochains jours, pourront quitter les sites pour intégrer leurs nouvelles habitations et se reprendre pleinement à main en ce qui concerne la vie quotidienne. Voilà.
Mais maintenant, pour terminer, ça ne se passe qu'à Bougna. Qu'en est-il de déplacer d'autres territoires?
Ils ne sont pas oubliés. Les solutions durables, ce n'est pas pour une seule catégorie de déplacés. Non, il y a un travail continu qui est mené. On a actuellement les collègues de l'OIM qui sont en train de mener une enquête sur les zones de retour potentiel. Ce travail permettra qu'on voie clairement quel est l'existant en termes de services sociaux de base, qu'on voie un peu qu'est-ce qu'il faut reconstruire, qu'est-ce qu'il faut faire. Et après, on reviendra vers les déplacés avec ces nouvelles informations. Et ça permettra certainement de revoir s'il y a des changements dans les intentions de retour tout et autres. Et nous sommes en train de travailler également avec les chefs de chefferie, on travaille avec les décideurs en fait. Il y a eu des ateliers qui ont été organisés ici à Bounia où on leur a présenté déjà ce que c'est que les solutions durables et qu'est-ce qu'on entend mener aussi dans leur territoire. Donc, c'est pas que les déplacés de Bounia qui sont ciblés. À moyen et à long terme, on aimerait bien que l'ensemble des déplacés de la province de l'Ituri bénéficient des solutions durables. En fait, nous sommes en quête permanente de ces solutions durables en leur faveur.
Merci beaucoup.
Merci. Merci.
Mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous êtes branchés sur Radio Okapi et vous venez de suivre le journal Vespéral sur les différentes fréquences à travers la République démocratique du Congo. Ce journal vous a été mis en onde par Dieudonné Nyangassa, préparé par Alain Hirong, Jacques-Yves Molima et l'ensemble de la rédaction. Billy Ivan Lutumba vous l'a présenté au nom de toute cette équipe. Je vous dis sincèrement merci et continuez à vous informer sur toutes nos plateformes numériques.